12 février 1994, cinquième conférence, la personne humaine.
Nous sommes arrivés au seuil de ce que représente cette philosophie première. C'est comme cela qu'Aristote l'appelle. Le nom métaphysique a été donné par les bibliothécaires. Et donc il ne signifie pas grand-chose. Tout simplement, après la physique, il y a ce livre mystérieux qui n'est plus de physique. Aristote donne le nom de philosophie première, que j'aime mieux. Parce qu'en réalité, c'est pas du tout métaphysique après la physique. Vous voyez, ça ne signifie pas grand-chose. En réalité, c'est avant la physique et après la physique. Ça enveloppe tout. L'être enveloppe devenir. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, on pourrait commencer la philosophie par la métaphysique, c'est-à-dire par la philosophie première. C'est pour ça qu'exprès, hier, je vous montrais la question du chrétien et la question du cheminement philosophique. Si je prends le cheminement philosophique par le point de vue des expériences successives, j'aboutis fatalement à me poser la question, mais qu'est-ce que représente cette interrogation fondamentale? Qu'est-ce que c'est que l'être? Et c'est dans l'interrogation qu'il faut montrer l'être. L'être se manifeste dans l'interrogation, c'est ça qui est très curieux, vous voyez. Pour les autres, le travail, il y a l'expérience du travail. L'amour d'amitié, il y a l'expérience de l'amour d'amitié. La solidarité, la coopération, il y a l'expérience de cela. Et d'une certaine manière, j'ai l'expérience du devenir. Tout coule. J'ai l'expérience. D'une certaine façon, j'ai l'expérience de la vie, de l'opération vitale. Tous les jours, dans cette vie, tous les jours, vous vous réveillez. Tandis que lorsqu'il s'agit de l'être, vous avez l'expérience de ce qui est donné dans le devenir. Et l'intelligence atteint l'au-delà du devenir, dans le devenir. Ceci est. Et c'est l'interrogation. dit ceci, que la première interrogation, c'est de savoir est-ce que ceci existe. Le est est que vous donnez hier. Est. S'il existe, ceci existe-t-il? Et la seconde question, le ti est. Qu'est-ce? Savoir ce qu'il est. Savoir ce qu'il est. Donc, pratiquement, la signification. La signification profonde. Qu'est-ce que c'est? Tandis que, est-ce que ça existe? Parce qu'on ne fait la philosophie que de ce qui existe. Donc, on a un, deux, Aristote, Descartes dit non. La première question, la signification, d'où la définition. La première question. Puis ensuite, est-ce que ça existe? Donc il inverse. Il le dit. Donc c'est pas moi qui interprète Descartes en disant ça. C'est Descartes lui-même qui dit je tourne le dos à Aristote. Ça n'a l'air de rien. Mais comme c'est tout à fait premier, cette parole que dit Aristote, qui est aussi très intéressante, que l'erreur au point de départ, ou les déviations, disons, pas l'erreur, les déviations au point de départ ont d'immenses conséquences. Quand le fleuve se jette dans la mer, tout le monde, du moins beaucoup de personnes, ont vu les sources du Rhône et du Rhin en Suisse. Et on voit que la source du Rhône et du Rhin sont tout proches. Et quand vous les regardez, dans leur parcours, ce sont deux fleuves très différents. Et ils ne se jettent pas tout à fait dans la même mer. Et l'un et l'autre charrient deux civilisations très différentes. Eh bien, si au point de départ de l'enquête, on commence par la signification, c'est-à-dire par les idées, Descartes commence toute sa philosophie par les idées. Mais d'où viennent ces idées? Alors l'idée, la signification de l'idée et la définition. Et le français cherche toujours la définition. Ah ben oui, mais on ne définit pas tout. Est-ce que vous vous définissez, vous? Oui, animal raisonnable, par moment. Mais lorsque vous voulez définir tout, vous n'êtes plus un animal raisonnable. C'est Aristote qui dit, celui qui veut tout définir ne définit rien. Et c'est très vrai. Parce que c'est la réalité qu'on cherche à connaître. C'est pas les idées. L'homme ne vit pas d'idées, il vit la réalité. Alors quand il cherche toujours la définition en premier lieu, ce sont les idées. Ce sont des hommes qui vivent d'idées. Alors ils se cassent le nez quand ils sont en face d'un mur qu'ils n'ont pas défini. C'est la réalité qui est importante à saisir. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais c'est capital. Alors évidemment, ça demande une conversion totale de l'intelligence. Mais c'est peut-être le rôle de la philosophie de nous convertir quant à notre intelligence. Parce que pour le juriste, Latour, c'est un fait. Oui, un fait. Oui. Et puis on regarde uniquement la signification. Ça existe ou pas, on le regarde après. L'intuition n'est jamais quelque chose de premier. L'idée n'est jamais quelque chose de premier. Sauf pour Descartes, puisque pour Descartes, les idées sont innées. Le gosse, dans son berceau, a déjà des idées. Au nom de Descartes, je ne sais pas si Descartes a eu ce privilège. Moi, je ne l'ai pas eu. Et vous non plus, je sais bien. Vous n'avez pas eu l'idée d'être. Vous n'avez pas été métaphysicien dans votre berceau. Eh bien, l'idée d'être, vous voyez, si je commence la métaphysique par l'idée d'être, c'est pas l'être, l'idée d'être. C'est ce que vous concevez par l'être. C'est pas l'être. Et tout Heidegger, c'est pour lutter contre l'idée d'être qui est avant l'être. Depuis Descartes. Et Heidegger veut retrouver l'être sauvage. Parce que l'idée, c'est l'être très civilisé. Ce qui est important, c'est de comprendre la réalité. D'où viennent mes idées? D'où viennent mes définitions? La définition, c'est quelque chose de logique. C'est pas métaphysique. La philosophie est au-delà des définitions. Parce qu'elle est en contact avec l'homme. L'homme réel, l'homme qui existe. C'est très bien les définitions, je suis tout à fait d'accord. C'est très important d'avoir un dictionnaire à sa portée pour regarder la signification des mots. C'est très très important. Mais la philosophie, c'est pas la signification des mots. C'est l'expérience que j'ai de la réalité. Et l'expérience que j'ai de la réalité, ça ne se définit pas. Mais c'est très vrai que l'expérience que j'ai de la réalité, petit à petit, oui, je définis certaines choses. Je définis certaines choses. Je définis l'universel. Mais vous ne définissez jamais le concret existant. Vous définissez l'universel. Et l'universel, c'est un être de raison. C'est quelque chose que j'ai fabriqué. C'est quelque chose que j'ai fait. Vous voyez, vous réfléchiriez uniquement là-dessus, la session philosophique aurait la peine d'être vécue. Là-dessus. Descartes, Aristote, faites vos choix. Est-ce que vous faites une philosophie des mots avec le dictionnaire? Ou est-ce que vous essayez de réfléchir sur votre expérience? Est-ce que vous êtes encore capable de comprendre que l'expérience, ce n'est pas une définition? Vous rencontrez un individu que vous ne connaissez pas, mais vous êtes heureux de le rencontrer. Enfin, tout de suite, vous le cataloguez. Ah, vous êtes de tel endroit, ah, citoyen. Ah, vous êtes de tel endroit, oui. Ah, vous êtes celui ça, oui, ah, vous êtes comme ça. Définition. Vous êtes français, ah, je suis Descartes, je suis tout de suite. Et c'est vrai, du reste, d'une certaine manière, il y a quelque chose de juste. Mais les autres déterminations. Tous les êtres, toutes les réalités que vous connaissez sont déterminées. Et vous avez ici, alors, ce qu'on appelle les 10 prédicaments. Les 10 prédicaments. L'invention d'Aristote, ou la découverte, c'est l'aspect descriptif de l'homme. Si je veux décrire ce qu'est Pierre, je dis Pierre est un homme, Pierre est intelligent, Pierre pèse tant de kilos, il a telle grandeur, Pierre est en relation avec tel individu, Pierre il est capable de supporter des tas de choses, Pierre il est capable d'agir, Pierre, oui, l'action et la passion. Pierre dans le temps, Pierre dans tel lieu. Les 10 prédicaments, ce sont les 10 déterminations, les 10 prédicaments, les 10 attributs. Il y en a 10. Mais ces déterminations de pierre ont quelque chose de commun, puisque toutes elles regardent Pierre, et elles sont toutes diverses. Alors, toutes elles indiquent quelque chose de Pierre. Quand je dis Pierre est intelligent, j'indique quelque chose de Pierre. Pierre est capable d'aimer. Pierre est grand. Pierre a des cheveux comme ça. J'indique. Particulier. On a dit ce qu'est Pierre. Mais Pierre, il est au-delà de tous ses accidents. Il est au-delà de tous ses attributs. Il est au-delà de toutes ses déterminations. Il est. Alors qu'est-ce qui fait son unité? Cette source première. Je découvre donc ce qu'il y a. La cause finale. toujours ces deux grandes interrogations. Qu'est-ce selon la forme, selon la détermination, selon la matière, selon l'origine, selon la fin? Et qu'à réfléchir, vous verrez qu'il y a ces quatre interrogations qui sont tout à fait fondamentales quand je suis en face d'une réalité que je veux connaître. Il y en a une quatrième. Sur le modèle de quoi? C'est-à-dire que la forme peut être la forme immanente ou la forme transcendante. Alors ça devient le modèle pour toutes les œuvres d'art. Sur le modèle de quoi? Sur le modèle de quoi telle statue? Sur le modèle de quoi telle maison? Vous voyez, il y a le prototype. C'est le prototype, c'est l'archétype, si vous aimez mieux, l'archétype sur lequel se font les choses. Donc, vous avez quatre ou cinq grandes interrogations. Ça, j'ai pas le temps d'insister là-dessus, mais c'est très important pour comprendre la structure d'une recherche philosophique. Et ça demeure, ça n'a pas changé d'un point. Posez la question pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une chose. Vous regardez la forme, la matière, l'origine, la finalité. Et d'où ça vient, cela? Ça vient de la première analyse que je fais d'une œuvre artistique. Quand j'analyse une œuvre artistique, la copie d'un élève vient de passer un examen. Je dis nul pour le contenu, merveilleux pour l'expression, chef-d'œuvre d'expression, mais aucune pensée. Analyser certains articles de journaux, quelquefois feu d'artifice, merveilleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vrai, pour la philosophie, c'est comme ça aussi. Vous n'arrivez pas à comprendre. Mais au fond, quand on regarde quelque chose, on la regarde toujours sous ces deux aspects, la matière et la forme. Une sculpture, la matière et la forme. Puis l'origine, c'est intéressant, savoir d'où ça vient. Qu'est-ce qui a pigé ça? Qu'est-ce qui a fait ça? D'où ça vient? Et puis la finalité, c'est pourquoi? En vue de quoi? Donc nous avons quatre grandes interrogations quand il s'agit de ce qui est en tant qu'être. Vous avez la première interrogation au point de vue de la forme. Et par l'induction, vous découvrez le principe propre de la forme de tout ce qui est la substance. Vous vous posez la question, y a-t-il une interrogation selon la matière pour ce qui est en tant qu'être? Et vous découvrez tout de suite qu'il n'y a pas de principe propre selon la matière pour l'être. Ça, c'est assez vertigineux quand vous le faites. Parce que l'être est premièrement source de toute détermination. À la différence du devenir, il est, en tant qu'il est, Averroès et Marx. C'est curieux, c'est intéressant du raisonnement dans l'histoire de la philosophie. Tous les autres ont distingué l'être et le devenir. Et comme l'être n'est pas le devenir implique toujours une matière. Toujours. Parce que tout devenir implique une indétermination. Donc implique quelque chose de matériel. Il devient. Il est capable de devenir. Mais l'être, comme être, il est. Donc il n'y a pas de cause d'indétermination dans l'être. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de recherche selon la matière. Et vous dites la même chose pour l'origine. C'est beaucoup plus calé. Alors, je ne le vois pas. Mais c'est très intéressant. Vous ne pouvez pas saisir ce qui est de premier dans l'être. Ça. Parce que la source, l'origine, c'est toujours l'origine de quelque chose qui devient. Ce qui ne devient pas n'a pas d'origine. Vous allez me dire, alors, vous supprimez le problème de la création. Non. Je montre que si je situe l'origine de l'être, c'est au-delà de toutes mes expériences. Vous n'avez pas l'expérience de l'origine de l'être. Impossible. Vous avez l'expérience de l'origine du devenir. Donc, il n'y a pas de recherche de ce qui est premier selon l'origine au point de vue métaphysique. Les deux seules recherches, c'est selon la forme et selon la fin. Selon la fin, c'est la découverte de l'être en acte. L'être se divise en substance, accident. Être en acte. Être en puissance. C'est pour ça que la philosophie première, c'est la philosophie la plus simple qui soit. Puisqu'il n'y a que deux recherches, la forme et la fin. La détermination et la fin. Mais c'est évidemment, c'est aussi ce qu'il y a de plus difficile à saisir. Quelle est la fin de ce qui est en tant qu'il est? C'est l'être en acte. Et ceci se découvre par une induction. L'être en acte distingue de l'être en puissance. Aristote dit que pour découvrir l'être en acte, distingue de l'être en puissance, il faut une induction analogique, synthétique, c'est-à-dire une induction qui s'appuie sur plusieurs expériences. Et la première expérience, elle est très simple. Tous les jours, nous la faisons. Le passage de l'être qui dort. Quand je dors et quand je suis éveillé, je suis la même substance. C'est bien évident. Rien n'est changé du côté de la détermination. Et tout est changé du côté de l'être. Puisque je passe de l'état de celui qui dort à celui qui est éveillé. De l'état de celui qui est en puissance à celui qui est en acte. Vous voyez, c'est pour montrer la subtilité de la saisie de l'être en acte. C'est au-delà de toutes les déterminations. Je peux faire une autre expérience. Je suis capable découvrant que tout ce qui est en puissance étant donné à l'acte, je découvre le principe de finalité au niveau de l'être. Tout ce qui est en puissance étant donné à l'acte. Et du reste, c'est très significatif. Il y a deux spiritualités au plan métaphysique. Deux spiritualités. Celui qui dit je dors pour être éveillé. Et celui qui dit je suis éveillé pour dormir. Réfléchissez beaucoup à ça. C'est pas bête du tout. Hein. Très très intéressant. Il y a des gens, je vous affirme, ça existe. Vous n'avez qu'à être attentif. Il y a des gens qui sont éveillés pour dormir. Vous voyez, quand de fait, l'anthropologie, l'homme qui est éveillé et qui dort. L'homme qui est éveillé, il est commandé par le devoir. L'homme qui dort est commandé par le plaisir. Alors, est-ce que vous êtes finalisé par le devoir ou par le plaisir ? Là, je creuse jusqu'au bout et je vois que la philosophie de l'être en acte et d'être en puissance, c'est très éclairant. Posez-vous de temps en temps la question. Il est évident que vous qui êtes là, vous dormez pour être éveillé. Hein. Et vous êtes sûr que c'est quand vous êtes éveillé que vous êtes parfaitement vous-même. Hein. Quand vous dormez, vous ronflez, c'est pas vous, c'est pas d'importance de ronfler. Qu'une espèce d'importance, je ronfle. C'est pas vous. C'est parce que je dors. Quand je suis éveillé, je ne ronfle jamais. Vous voyez, c'est là encore, on touche quelque chose de très, très fondamental. Je vous ai dit, il y a deux philosophes qui ont regardé les songes, Aristote et Freud. C'est pour ça que j'ai parfaitement le droit de mettre en parallèle Aristote et Freud. Pour Aristote, je dors pour être éveillé. Pour Freud, je ne sais pas. Puisqu'il considère que en dormant, c'est ce qu'il y a de plus radical et de plus profond dans la nature qui se rattrape. Je me rattrape en dormant. Parce que quand je suis éveillé, j'ai le devoir. C'est pas drôle le devoir. Mais le gosse, il était à l'école, c'est pas drôle. Et l'homme, il doit toujours travailler. C'est pas drôle de travailler. C'est pas lui qui travaille. Or, quand je suis éveillé, je travaille. Ce qui est intéressant, c'est de dormir. Là, vous voyez, comme c'est curieux de voir que les gosses n'aiment pas de dormir. Il n'y a que les vieillards qui aiment de dormir. Alors, l'ordre est renversé. Ils sont éveillés autant que possible pour pouvoir dormir. Oh, béatitudo. Je dansais la grande béatitude. Plus de tracor, rien du tout. Alors, réfléchissez tout simplement à ça. C'est très simple. Division de l'être. Être en acte. Être en puissance. Le principe de finalité. Tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. Et c'est le principe de finalité qui est la grande découverte d'Aristote. La substance, elle est chez Aristote et chez Platon. Tandis que la finalité, elle est seulement chez Aristote. Platon découvre la cause exemplaire qui remplace la finalité. La cause exemplaire, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les valeurs. Et certains veulent tout transformer par les valeurs. Ils vont pas assez loin. Ils restent platoniciens. C'est la finalité qui est importante. Il faut réveiller l'homme pour que l'homme ait une vraie finalité. Je me souviens dans le dialogue que j'avais avec des psychanalystes freudiens. Parce qu'ils m'avaient cherché. Votre philosophie repose sur l'expérience. Nous aussi, ça repose sur l'expérience. Donc on doit pouvoir s'entendre. Je dis très bien, on va moment donné, le patient pose la question, docteur, croyez-vous en l'homme? Je trouve ça très beau, ça. Croyez-vous en l'homme? Alors je dis, alors qu'est-ce que vous dites? Ah, je suis la méthode, je me tais. Je dis, mais c'est affolant. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer, vous dites, faites des exercices. Et puis je reste sur la rive. Thomas d'Aquin, à la suite de tous les pères de l'Église, quelle est la signature de Dieu. Si je suis capable de découvrir Dieu, il doit y avoir la marque de Dieu. Quelle est sa marque? Vous n'êtes jamais posé la question. C'est dommage quand même. Quand même reconnaître la marque de Dieu, le tampon de Dieu. De Dieu. Je crois que Fagelli ne peut pas sourire. Il grogne, mais il ne peut pas sourire. Un grand singe, plus ils sont grands, plus le sourire est oiseux. C'est curieux. Un petit singe, on dirait qu'on doit encore s'amuser. On doit encore... Non, non, pas du tout, il ne sourit jamais. Jamais un singe sourit. Un chat, peut-être le sourire. Non. C'est curieux, vous voyez que... sur le zinc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. À la rigueur, un gros singe pourrait boire de la bière avec son voisin et puis éclater en jetant le vase par terre. Bon, on verrait encore ça pour lui apprendre à faire ça. Il le ferait très bien, ça, un guignol étonnant. Un cirque étonnant. On les verrait. Donc...